Et toi, seulement toi. Après.
Nous lisons dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois, ceci c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Ta parole est la vérité, sanctifie-nous par la vérité. Amen.
Seigneur notre Dieu, tu as créé ce monde et tu l'as créé bien. Mais ce monde est aussi entaché de notre péché, soumis aux forces du mal. Et nous vivons dans ce mélange de bien et de mal. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous ne refusions ni de voir le bien ni de voir le mal. Mais surtout, que nous ne refusions pas de voir toi-même, qui viens dans ta nouveauté, toi-même qui restes présent quoi qu'il arrive, toi-même à même de nous donner de la joie et du sens à notre vie, quelles que soient les circonstances. Seigneur, nous voulons te louer pour cette présence et cette bonté. Nous voulons te remercier de cet amour constant qui ne faiblit pas, qui n'est pas entravé par nos faiblesses et nos fragilités, mais qui se montre toujours le même et qui se renouvelle de jour en jour. Seigneur, béni sois-tu de cet amour. Aide-nous à le recevoir. Ouvre maintenant nos cœurs à ta parole, que nous puissions nous laisser pénétrer de cette bonté, de cet amour. Qu'il germe en nous, qu'il produise des fruits, que ces fruits se voient, que ces fruits durent. Seigneur, que ton Saint-Esprit, qui continue ton œuvre éternellement après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, habite en nous et nous fasse vivre. Voilà ce que nous te demandons par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Dans la Bible, certains livres sont aussi beaux que difficiles à comprendre. L'Ecclésiaste en est un. Quand il affirme, par exemple, que tout est vanité, une génération passe, une nouvelle génération lui succède, mais le monde demeure indéfiniment. Le soleil se lève, le soleil se couche, puis il se hâte de retourner à son point de départ. Quel message est-ce qu'on peut en tirer? Est-ce que ces paroles ne reflètent pas autre chose que le désespoir d'un roi désabusé qui, à la fin de sa vie, constate que sa gloire et ses richesses ne font pas le poids face à la mort qui l'attend? Je vous avoue que pendant longtemps, moi non plus, je ne voyais pas en quoi l'Ecclésiaste pouvait affirmer ma foi. Dans mes études, je l'ai étudié, mais sans obtenir de réponse à cette interrogation. Or, dernièrement, je suis tombé sur un commentaire qui a été comme une révélation. En théologie, un commentaire est un ouvrage qui explique les versets bibliques verset par verset. Ce commentaire en question a été écrit par un pasteur bernois, Walter Luthi, qui, contrairement à d'autres théologiens qui s'attardent pendant 10 pages sur chaque détail mineur, comme par exemple se demander si le texte a été écrit en 630 ou en 610 avant Jésus-Christ, Walter Luthi préfère apporter un éclairage spirituel. Ainsi, il commence par une anecdote dans laquelle un instituteur a fait dessiner à sa classe un cahier des habitations humaines. Sur la première page, il y a un habitant des cavernes, sur la seconde, une cité lacustre, et graduellement des habitations qui s'améliorent pour finalement aboutir à de confortables logements. Tout à coup, c'est la dégringolade. Les grandes casernes locatives apparaissent et à la dernière page, on voit un homme, le front appuyé dans sa main, accroupi dans un taudis. Avec ces dessins, l'instituteur a voulu exprimer la vision pessimiste du monde qui commençait à son époque et qui s'est encore accentuée depuis. Or, justement, souligne Walter Luthi, ce défaitisme est à l'opposé de l'Ecclésiaste, qui en fait n'est ni optimiste ni pessimiste. C'est un croyant réaliste. contrairement aux pessimistes, il ne laisse pas la misère humaine prendre toute la place. D'un autre côté, il en accepte la réalité au lieu de l'évacuer béatement comme l'optimiste. Il refuse de choisir entre le bien, entre le blanc et le noir. Il s'ouvre à une autre dimension. Laissez Dieu advenir dans sa nouveauté. Son livre commence par « Vanité des vanités, tout n'est que vanité », mais il se termine par « Sois heureux, mais souviens-toi de ton Créateur, car il demande des comptes pour toutes les actions que l'homme fait. » Ce réalisme qui s'ouvre à Dieu fait naître la joie. Le pessimisme ne l'a pas parce qu'il exclut tout remède à l'avance. L'optimiste, qui s'aveugle lui-même, finit par trébucher sur ses illusions. Seule une foi réaliste conduit à l'espérance. Vous savez, c'est comme dans l'histoire des trois grenouilles qui tombent dans un pot de crème. La pessimiste pleure, se lamente et finit par se noyer. L'optimiste attend sans rien faire et s'enfonce de la même manière. La troisième, une croyante réaliste, gigote tant et si bien que la crème finit par se transformer en beurre et elle parvient à sortir du pot. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Certains théologiens se sont imaginés que ces propos étaient la conséquence de ceux qui, comme Salomon, s'abordent leur vie en s'attachant à des idoles plutôt que de s'appuyer sur la volonté divine. Vous vous souvenez sans doute qu'au début de son règne, ce roi célèbre a fait un rêve dans lequel Dieu lui promettait de lui accorder ce à quoi il aspirait le plus. Il a demandé la sagesse pour servir son peuple dans la nouvelle tâche qui l'attendait. Alors Dieu lui a promis d'exaucer non seulement son désir, mais de lui donner en plus ce qu'il n'avait pas sollicité, la gloire, les richesses et une longue vie. Or, après un règne extraordinaire, dans sa vieillesse, Salomon a épousé des femmes d'autres religions, a fait construire des temples pour elles et s'est détourné de son Seigneur. Avec l'abandon des repères fondamentaux, soulignent ces théologiens, il n'est pas étonnant qu'il ait désespéré devant la mort et considéré que tout n'était que vanité. Mais cette interprétation n'est vraie qu'en partie. Parce que dans certaines situations, n'importe qui en arrive parfois à tenir de tels propos désabusés. Face à la mort ou à une grave maladie, quand notre corps n'est plus que souffrance, quand notre vie s'écroule à la suite de déceptions ou de désillusions, les lumières qui nous éclairaient autrefois, les joies, les réussites du passé s'estompent et l'avenir se bouche profondément. Dans certaines circonstances, même le plus grand croyant a l'impression que tout n'est que vanité. Pour comprendre l'Ecclésiaste, il faut le remettre dans son contexte. Il vit au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ses compatriotes sont martyrisés sous la cruelle dynastie des Ptolémées, qui les prive de leur liberté fondamentale, les exclut des décisions qui les concernent, les empêche d'accéder à de bonnes positions dans l'administration, tout en levant sur eux des impôts faramineux. Alors que les Israélites perdent espoir, l'Ecclésiaste est persuadé que l'ancienne sagesse du roi Salomon est la clé pour traverser le présent et ouvrir l'avenir. Lorsqu'on est un croyant réaliste, la nouveauté de Dieu ne finit jamais de surprendre. L'espérance qui en découle ne déçoit pas. Voici, je me tiens à la porte et je frappe, dit Jésus. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu est capable de donner joie et sens à la vie, quelles que soient les circonstances. Il l'a fait autrefois et continue de le faire aujourd'hui. J'aimerais illustrer cela par un exemple, mais auparavant, je tiens à préciser qu'il n'est pas dirigé contre l'Église catholique. D'abord parce que je suis de ceux qui préfèrent balayer devant ma propre porte avant de critiquer les autres. Ensuite parce que les sentiments de rivalité et de jalousie que vous allez entendre dans cette histoire ne sont pas l'apanage de l'Église catholique. L'Église protestante en sait quelque chose aussi. Et Linda et moi pouvons en témoigner. Peu avant ma naissance, est décédé un moine que l'Église catholique appelle aujourd'hui le portier du paradis. Solanus Cazet, c'est son nom, avait le titre de prêtre simplex. C'est-à-dire qu'il avait le droit de célébrer la messe, mais pas de prêcher ni de confesser. Ses supérieurs pensaient qu'il n'était pas assez intelligent pour ça. Il l'avait cantonné à l'accueil dans son monastère à New York. Avec les années, cependant, les gens venaient de plus en plus pour profiter de ses conseils spirituels. Solanus Cazet devenait une véritable vedette, à tel point qu'il a été finalement déplacé dans un autre monastère, soi-disant pour que cela ne lui monte pas à la tête et pour ramener le calme dans le sien. Dans son nouveau port d'attache, ses tâches se bornait également à répondre au téléphone et à faire entrer les visiteurs. La véritable vocation de cet homme remarquable semblait se diriger vers un cul-de-sac. C'était sans compter sur la grâce divine et le rayonnement incroyable de ce moine qui a recommencé à attirer un monde fou. Constatant qu'il ne tirait aucune fierté personnelle et qu'il continuait de participer à la vie du monastère avec une égale bonne humeur, ses supérieurs ont été obligés de s'incliner. Malgré cela, ils ne lui ont jamais accordé la permission de prêcher ni de confesser. Il n'empêche que le portier du paradis n'en aura pas eu besoin pour que de nombreux cœurs soient touchés par le Christ. Résumons à présent le message de l'Ecclésiaste. Dieu est capable de donner joie et sens à la vie, quelles que soient les circonstances. Il a le pouvoir de faire triompher nos vocations malgré les obstacles. Voilà ce que l'Ecclésiaste proclamait à ses compatriotes il y a plus de 2000 ans. Voilà ce qu'il continue de nous annoncer aujourd'hui. Amen.